Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur la situation des jeunes, notamment en Belgique, avec Jérôme Lechien, délégué de la jeunesse de ce pays. Venu participer au siège aux travaux de la 3e commission de l'Assemblée Générale, ce jeune médecin a été élu à la tête du Conseil de la jeunesse de la Belgique pour la période 2014-2015. Dans nos studios, Jérôme Lechien revient sur ses préoccupations et ses appels, mais tout d'abord sur ce qui l'a motivé à s'investir pour défendre les intérêts de la jeunesse belge. On l'écoute.
Alors, ça fait 10 ans que je suis impliqué dans divers combats pour les jeunes, d'abord pour les étudiants en médecine, puis après pour les étudiants en règle générale et maintenant pour l'ensemble des jeunes. Et c'est véritablement la fin de mon mandat en ce moment. Et j'avais envie de pouvoir impacter sur les politiques d'une façon plus internationale. Et je pense que l'ONU est un lieu tout à fait essentiel pour porter la voix des jeunes, pour sensibiliser les différents représentants des États membres, pour sensibiliser tout un ensemble de personnes qui ont leur mot à dire dans les politiques, et également pour, quand il le faut, tirer la sonnette d'alarme sur des situations que vive la jeunesse et que l'ensemble des diplomates ou l'ensemble des politiques ne vivent pas, parce qu'ils ne sont plus dans la situation de beaucoup de jeunes.
Et quelles sont justement ces situations qui vous semblent à l'heure actuelle les plus préoccupantes pour les jeunes ?
Je dirais que d'une façon générale, il y a une situation qui est préoccupante, c'est l'austérité. On nous matraque à coups d'austérité partout en Europe. De plus en plus de jeunes ont envie de travailler, ne trouvent pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Et quand il y a des emplois, certains ne sont pas des emplois de qualité, qui permettent véritablement aux jeunes de s'épanouir. Cette austérité, elle a des impacts dans tout, dans l'éducation, dans différents éléments, dans l'emploi, etc. Elle a des impacts négatifs partout.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités que vous menez sur le terrain en Belgique ?
Lorsqu'il y a, par exemple, des problèmes au niveau de l'emploi, de l'utilisation de certains fonds européens qui visent à créer des emplois directs pour les jeunes ou leur donner une chance pour faire une formation professionnalisante, etc., eh bien nous, nous allons sur le terrain. Parfois, on fait des manifestations pour aller rencontrer les politiques avec tout un ensemble de jeunes et leur dire « nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites ». Nous rencontrons également eh bien, les jeunes dans différents festivals, dans des écoles, dans des universités, etc. On sonde leur avis à l'aide d'informations et de questionnaires pour après défendre leur avis en tant que représentant. Alors comment est-ce qu'on le défend ? Certes, il y a des actions plutôt militantes. On a également des interviews au sein des médias pour sensibiliser l'opinion publique et faire pression sur les politiques, mais également tout un jeu de lobby politique. Nous allons rencontrer les politiques et les acteurs de terrain et où nous essayons notamment de faire des fronts communs avec tout un ensemble d'acteurs pour avoir plus de poids.
Vous avez mentionné à plusieurs reprises le problème du chômage des jeunes. La plupart du temps, l'accès à l'emploi, à un emploi, implique d'avoir pu suivre des études supérieures. Y a-t-il un problème au niveau de l'accès à l'éducation supérieure, de votre point de vue, un manque d'équité ?
Alors, en Belgique, il faut savoir qu'on a un pays assez particulier et paradoxal à ce niveau-là, parce que nous sommes un des pays où il y a le moins de sélections possibles. Même s'il existe des sélections tout à fait honteuses dans certains métiers en pénurie, comme les études d'ingénieur ou la médecine, à côté de ça, il y a beaucoup d'enseignements où il n'y a pas de sélection à l'entrée, mais on reste les champions des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a les inégalités et le statut social. Les gens en Belgique, les jeunes qui viennent de familles où les parents n'ont pas un diplôme universitaire, ont une formation de base sans avoir de diplôme des études supérieures, ont moins de chances de réussir. Et pour un pays où il y a très peu de sélection, c'est assez paradoxal. Donc je dirais que l'enseignement en Belgique doit impérativement être amélioré. Ça me paraît clair. Et on doit surtout, en fait, lever les inégalités qui existent à l'entrée pour permettre à chaque jeune, quel que soit le milieu d'où il vient, de pouvoir faire des études. À côté de ça, il faut permettre aussi aux jeunes qui sont en décrochage scolaire dans leurs enseignements de base, donc le lycée ou les études secondaires, il faut permettre à ces jeunes de pouvoir se reprendre et de pouvoir véritablement, eux aussi, avoir accès à une formation professionnalisante. Et à l'heure actuelle, c'est une catastrophe à ce niveau-là.
Votre engagement politique, vous exercez également la médecine. Quel est le regard du médecin sur les questions qui préoccupent les jeunes ?
Alors, j'ai un regard de médecin qui me permet de toujours me poser la question, oui, Il y a des impératifs politiques, il y a des impératifs économiques, mais quid de l'humain? Ça, c'est quelque chose d'important. Et en tant que médecin, quand je vois des situations liées au chômage des jeunes, liées à l'exclusion du chômage des jeunes, etc., je me pose surtout la question de savoir qu'est-ce que ça a comme impact sur le plan humain? Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce que ces jeunes peuvent vivre véritablement? Parce que, à l'heure actuelle, je dirais que on se préoccupe beaucoup de donner un emploi aux jeunes, on essaye de leur donner, etc., mais aussi le côté vraiment humain, émancipatif. Et ma vision de médecin me permet surtout de voir l'être humain dans sa globalité et de ne pas faire du tout abstraction de tout ce qui est lié à l'humanisme et au bonheur véritablement du jeune et à sa qualité de vie.
Vous avez parlé d'humanité. L'Europe traverse actuellement une énorme crise de réfugiés. Quels sont les débats en cours parmi les jeunes en Belgique face à cette situation ?
Alors, il y a un gros problème en Belgique, c'est que nous avons un gouvernement fédéral qui est à droite, très à droite, avec un parti d'extrême droite. Et ces réfugiés qui arrivent chez nous, eh bien, ils n'ont jamais demandé à devoir fuir leur maison, leur pays, etc. Je pense que les politiques devraient pouvoir se mettre à leur place, comprendre ce qu'ils vivent et faire davantage que ce qui existe à l'heure actuelle. En Belgique, il y a une caractéristique qu'on retrouve un peu ailleurs. C'est qu'en fait, les jeunes et beaucoup d'organisations citoyennes sont en train de se mobiliser pour aider les réfugiés. Mais cette aide, en fait, c'est véritablement le fait de pallier à un manque d'action concrète de nos politiques. Sincèrement, beaucoup de jeunes à l'heure actuelle se rendent compte de ce que vivent ces réfugiés, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé pour arriver là. Nous voulons les aider. Vous savez, on est ici à New York. Quand je me balade dans la rue, je vois à quel point cette société est cosmopolite, à quel point les différentes cultures, les différentes ethnies se côtoient. Je trouve que c'est une richesse exceptionnelle pour la société. Et au fond de moi, j'ai vraiment envie que ces réfugiés soient intégrés dans notre société en Belgique, puissent faire partie intégrante d'un cosmopolisme qui va faire évoluer notre société vers une société meilleure. Parce que dans 100 ans, avec l'ouverture des frontières, je pense que dans chaque pays, il y aura tout un ensemble de cultures qui vont se côtoyer. Alors soyons intelligents en Belgique, prenons de l'avance, intégrons ces réfugiés dans le système et permettons-leur, également pour ceux qui souhaitent rester, de participer à la société. قاعدين نعيشو كي زبدة في بوبالا دي فقر نقر منقو مكر ما نعرف منقالا دي فقر نقر ماما منقو مكر نقر ماما هوني خنقة برشا غمة.
Vous allez éventuellement regagner votre pays. Quel message allez-vous apporter avec vous de cette expérience à l'ONU ?
Tout un ensemble de messages. Je dirais que sur certaines problématiques, c'est un peu les mêmes problèmes partout. Ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel, que ce soit sur l'accès à l'emploi des jeunes, sur la façon dont la société et les gens perçoivent la problématique des réfugiés, etc. Je veux revenir en Belgique avec des adresses, un carnet d'adresses, avec des contacts, avec des connaissances qui nous permettent en tant que Belges de faire deux choses. Nous améliorer dans la gestion de nos dossiers, dans, entre guillemets, la capacité de faire un lobbying très important avec des positions concrètes. Et la deuxième chose, c'est que à l'ONU, on a décidé bien tout un ensemble d'objectifs pour 2030. Il faut revenir avec ces objectifs et avec différentes structures inhérentes à ceux-ci qu'on ne pouvait pas découvrir en tant que jeune bloqué en Belgique. Et donc je veux qu'on puisse mettre en place ces objectifs 2030. Je veux revenir avec une expérience liée au fait que j'ai côtoyé tout un ensemble de jeunes autres délégués qui m'ont apporté des choses, tant sur le plan des connaissances que sur le plan de leur fonctionnement local, pour au final améliorer le fonctionnement et la démocratie de la jeunesse en Belgique.
Vous avez évoqué ce programme de développement durable. Accorde-t-il suffisamment d'attention aux jeunes ?
Je pense qu'il y a quand même pas mal de points qui accordent l'attention aux jeunes, que ça soit sur l'égalité des genres. Ça, c'est un point qui est très important, où en Belgique, on est extrêmement progressiste par rapport à tout un ensemble d'autres pays. Concernant l'accès à l'éducation, ça me paraît tout à fait essentiel et relativement bien abordé là-dedans, même si en Belgique, il reste encore une fois des discriminations qui empêchent un bel accès à l'éducation et encore du boulot. Que ça soit l'accès à des soins de santé, à ce niveau-là, en Belgique, on est sur une pente qui est extrêmement mauvaise. On a une pénurie de médecins et on continue à limiter. Donc ça, c'est vrai qu'il faudra y travailler également. Mais surtout également tout ce qui est développement durable et le fait de préserver la planète. À ce niveau-là, nous devons également nous améliorer en Belgique. Donc il y a tout un ensemble de choses qui concernent la jeunesse. Je pense que tout en soi concerne la jeunesse. Tout, parce que nous faisons partie intégrante du présent de notre société. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de problèmes parce que, sincèrement, je pense que les politiques, c'est toujours beau sur le papier de dire nous avons négocié une résolution pour 2030, mais en ce qui concerne l'application de celle-ci, c'est toujours un peu plus problématique parce que les politiques ne pensent pas forcément à appliquer leurs promesses.
contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous part, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on entame, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi, jeunesse, lève-toi.
C'est là, je crois, la première fois que vous venez au siège de l'ONU et vous avez pu assister à toutes sortes de réunions, de travaux. Quelle est votre impression de l'ONU vue de l'intérieur? Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris ou auquel vous ne vous attendiez pas?
Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est vraiment le côté ultra diplomatique. C'est-à-dire que nous, en Belgique, parfois, quand on a des assemblées de jeunes, quand on est auditionné au Parlement en tant que représentant de la jeunesse, etc., on peut se permettre quelques frasques liées à la jeunesse. Par exemple, on peut se permettre d'utiliser des mots extrêmement forts, etc., pour secouer un peu le cocotier. Ici, c'est très, très, très formel, très conventionnel, très diplomate. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a assez amusé, ce qui est, somme toute, assez bien. Sinon, ce qui m'a aussi assez intéressé, c'est le fait de côtoyer tout un ensemble de cultures totalement différents et d'écouter la vision de la société et de l'humanité de personnes qui proviennent de cultures totalement différentes. Je trouve que c'est extrêmement enrichissant parce que nous, on est ici, on défend nos points avec notre vision d'Européens, avec une vision de quelqu'un qui a été élevé dans une culture qui est profondément chrétienne dans beaucoup de pays. Et en fait, le fait de découvrir des modes de fonctionnement totalement différents, avec des visions totalement différentes de l'humanité et de l'être humain, je trouve que c'est extrêmement enrichissant, notamment dans une meilleure compréhension de l'autre. C'est pour moi un élément clé.
Est-ce que vous pouvez juste partager peut-être un ou deux exemples de débats comme ça qui vous ont étonné ou surpris ?
Je dirais qu'il y a notamment l'accès à l'éducation pour les femmes. Nous, en Belgique, ça coule de source qu'une fille a tout à fait les mêmes droits. Et j'ai vu notamment d'autres cultures qui défendaient le fait que, par exemple, des femmes pouvaient avoir accès à l'éducation seulement depuis quelques années et que, voilà, selon eux, c'était déjà une grande avancée par rapport à ce qui existait précédemment dans leur pays. Et j'ai l'impression que, dans certains débats, les personnes étaient très fières de ça et estimaient que c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel d'avoir une telle avancée, alors que moi, en tant qu'Européen, j'estime que ce n'est pas une avancée, c'est un droit fondamental qui aurait dû toujours exister.
Votre mandat arrive bientôt à terme. Quelle sera votre prochaine étape professionnelle?
Alors ma prochaine étape, c'est de faire ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire la médecine. Je pense qu'en tant que médecin, je pourrais apporter beaucoup de choses d'une façon inconditionnelle aux gens. C'est-à-dire que je pourrais aider des gens, sauver des vies, soigner des gens, sans demander rien en retour, sans me prendre la tête avec des stratégies politiques, etc. Et je trouve que c'est la plus belle chose que je puisse faire de ma vie, c'est de me dire dans 50 ans, j'ai été médecin, j'ai enseigné la médecine, j'ai essayé de transmettre des messages à des étudiants parce que j'aimerais enseigner, j'ai fait de la recherche pour faire progresser la science, j'ai aidé tout un ensemble de personnes d'une façon inconditionnelle, sans devoir me lever au matin et de me dire « Oh, je suis politicien, aujourd'hui on va encore se disputer, etc. » J'ai vraiment envie de faire mon métier, de le vivre à fond, parce que la médecine est pour moi un moyen extraordinaire d'aider l'humanité sans devoir rendre de compte à personne.
Donc vous comptez délaisser la politique alors?
Bon, je continuerai à faire de la politique, mais sans être dans un parti. C'est-à-dire que dans mon domaine de recherche, qui est lié notamment à la voix, mais également à l'accès à l'enseignement et à l'efficacité des soins de santé, j'aimerais pouvoir influencer les politiques dans les prochaines années à l'aide de bases scientifiques. Leur dire, c'est bien la nouvelle réforme que vous proposez pour l'accès à l'enseignement supérieur, pour l'accès aux soins de santé, mais sur le plan scientifique, vous commettez une erreur. Sur le plan scientifique, je pense qu'il faut suivre cette voilà pour permettre véritablement à tout être humain de s'épanouir et d'avoir accès à des soins de santé. Et donc, je ferai de la politique, mais je ne veux pas la faire dans un parti avec les mains liées. Je veux être libre de mes actes, libre de mes paroles et utiliser la science comme principal outil pour faire progresser la société.
Ma jeunesse fout le camp sur un air de guitare. Elle sort de moi-même en silence à pas lent.
Et c'est avec Jérôme Le Chien que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.